camina peregrino y váyate con Dios. Bon chemin pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, prêts-y parats pour 25 minutes ?
Oui, prêt-y parats, c'est sous la pluie, on n'est pas gâté par le temps. Hein.
Ah oui, mais un chevalier s'en moque.
Oui, mais enfin bon, c'est l'époque des genêts quand même. Les genêts, c'est en fleurs et c'est beau sous le soleil et ça brille quand il fait beau, mais pas quand il pleut.
Pour que les genêts soient beaux, il faut bien un petit peu de pluie de temps en temps.
Oui, mais je pense qu'on en a assez de pluie.
On a assez de pluie. Alors, on va prendre le cheval au mot et aujourd'hui le mot fourragère. Alors, Jean-Yves, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est une fourragère ?
Ah bien, à ce moment, ça pousse le foin. Ça vient du mot foin. Je pense que dans le mot fourragère, fourrage, il y a le mot foin.
C'est le mot foin, voilà, oui.
Et on utilisait ça pour transporter le foin, vraisemblablement, par l'intermédiaire d'une corde.
Une corde fourragère, oui, tout à fait. Oui.
Et c'est devenu aussi un symbole. Dans l'armée, il y a des fourragères. Donc,
exactement, c'est un cordon, généralement de couleur jaune, et qui est placé sur l'épaule d'un uniforme
soldat.
Militaire. Oui, voilà, c'est cela, voilà, c'est la fourragère. Et même, c'est une cérémonie quand un soldat qui a fait ses classes, en quelque sorte, reçoit sa fourragère. C'est quelque chose d'assez solennel, en quelque sorte.
C'est ce que devaient avoir les gens, autrefois, qui ravitaillaient les chevaux en foin, hein, certainement. Ils devaient avoir une corde spéciale qui les avait
toujours avec eux. Alors, justement, c'est intéressant parce que, dès la fin du XIIe siècle, fourragère, donc fourrage, comme tu l'as bien dit, fourrager signifie, en fait, dévaster, saccager. Et vers le XVe siècle, fourrage donne le verbe fourrager, qui est synonyme de pillage concernant les soldats ayant l'habitude de voler aux paysans les vivres nécessaires à leur entretien, c'est-à-dire à la fois le fourrage pour les chevaux, et puis aussi leur propre nourriture, et puis voir les objets qui se trouvaient, et éventuellement la virginité de la fille de la fermière.
Oui.
Voilà, donc c'était du fourrageage en masse.
Oui,
voilà. Alors c'est vrai que les armées ne touchaient pas, comment dirais-je, de soldes, ou si touchaient des soldes, enfin en tout cas n'avaient pas, rien n'était prévu pour assurer leur entretien, leur nourriture.
Et ils se payaient par le pillage.
Et ils se payaient absolument par le pillage, tout à fait. Ce qui même posait des gros problèmes, puisque en particulier du Guesclin a été chargé par le roi de France de prendre les grandes compagnies qui vraiment commençaient à piller sévèrement le territoire français, de les amener en Espagne. Voilà.
Et c'est comme ça que des gens sont partis aux croisades, quelque chose de pieux, et ils en ont fait une affaire de brigands. Puisqu'ils allaient brigander, ils allaient piller certains. Oui.
Alors justement, les croisades. Alors évoquer les croisades que l'Europe occidentale mena au Proche et au Moyen-Orient peut sembler aujourd'hui de l'histoire ancienne, reléguée depuis des lustres dans les pages des manuels d'histoire. À cette évocation, des images, des noms et des lieux défilent dans nos mémoires. Alors on se souvient du pape Urbain II qui prêche pour la première fois la croisade lors du concile de Clermont le 27 novembre 1095. Les premières persécutions massives des Juifs sont menées en Europe du reste. Pierre l'Ermite appelle lui aussi à la croisade des simples gens, expédition qui sera anéantie en Turquie une année plus tard, en 1096.
Donc, il y a eu des croisades dans le pays aussi, la croisade des Albigeois, par exemple.
Alors plus tard, tout à fait, bien sûr, oui. Et il y en a eu d'autres, effectivement, il y en a eu beaucoup. Mais là, on va parler des croisades en Orient. Et puis alors, évidemment, nous reviennent les images de chevaliers bardés de fer, menant d'irrésistibles charges comme Godefroy de Bouillon, Richard Cœur de Lyon, le prince de Antioche Renaud de Châtillon, qui eut du reste le projet de conquérir la Mecque. Il ne l'a jamais fait, mais enfin, il a eu le projet. Saint-Louis, bien évidemment. Et puis le roi lépreux de Jérusalem, Baudouin IV, et de son épouse, la reine Sibylle. Ou encore Balian d'Ibelin, qui gouverna une seigneurie au nord de l'actuelle ville israélienne, actuellement israélienne, d'Ascalon. Alors, il y a un film, du reste, qu'on va citer ensuite dans nos sources, en quelque sorte, qu'on va conseiller à nos auditeurs, où Balian d'Ibelin est montré comme un brave petit gars, forgeron de son état, etc. C'est faux. On l'appelait Balian le Jeune, fils de Balian le Vieux, qui avait une seigneurie au bord de la Méditerranée, au Proche-Orient. Donc, c'était pas un petit gars costaud, etc., qui s'était retrouvé à mener la croisade. Ceci dit, c'est quelqu'un, on en parlera la semaine prochaine, qui a eu une belle trajectoire, et en particulier, quand le film parle du respect que Saladin a pour lui, puisque Balian va défendre Jérusalem et négocier avec Saladin pour éviter que le Jérusalem soit pillé, soit mis à sac. Effectivement, Saladin, le grand roi, grand émir, effectivement, a énormément de respect pour Balian, Balian d'Ibelin. Voilà. Alors, donc, on a parlé des lieux, bien évidemment, on a parlé des gens, et puis aussi les châteaux. Les châteaux. Alors, c'est un extraordinaire maillage d'une centaine de forteresses érigées depuis l'Arménie au nord, la Syrie et jusqu'à l'extrémité de la mer Rouge et du désert du Sinaï au sud. Donc vraiment, ça couvre un grand périmètre.
Un grand réseau.
Absolument. Et le nom de certains de ces châteaux nous sont restés familiers. Alors évidemment,
le réseau de la piété.
Voilà, le Crac des Chevaliers, mais également les châteaux de Beaufort, de Chastel-Ernaud, de Saône.
Qui sont toujours...
qu'on appelle maintenant le château de Saladin, du reste, qui est un château...
Ils sont toujours existants et qu'on peut
visiter. Ah, tout à fait. Ah, ben, en particulier le château de Saône, effectivement, alors qui ont des noms bien français. Hein, bien voilà. Le château de Gibelet, de Château Pèlerin, du Toron des Chevaliers, de Montréal, ou encore du château des Figues, et la liste est longue. Enfin, bien sûr, la prise de Jérusalem par les croisés le 15 juillet 1099, l'anéantissement de l'armée chrétienne par Saladin à Athines, la victoire d'Athines pour les musulmans le 4 juillet 1187, la conquête de l'île de Chypre et la prise d'Acre le 7 septembre 1191 par Richard Cœur de Lion. Enfin, donc toutes ces images que l'on a, la fin de la présence franque au Levant avec la reprise de la ville d'Acre le 18 mai 1291 par les armées du sultan Al-Ashraf à Lille et le repli à Chypre des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem qu'on connaît mieux, Jean-Yves, évidemment, sous le nom d'Hospitalier.
Hospitalier.
Évidemment. Voilà. Alors pour nous, c'est certainement de l'histoire ancienne, mais pour les peuples et les communautés du Proche et du Moyen-Orient, d'Arménie, de Syrie, d'Égypte ou de la péninsule arabique, il en va tout autrement. Il en va tout autrement. Rendons-nous compte, durant deux siècles, de 1096 à 1291, l'Occident chrétien mènera 8 croisades séparées entre elles par des laps de temps finalement assez courts. 47 ans entre la première et la seconde croisade, 40 ans entre la seconde et la troisième croisade, 10 ans entre la troisième et la quatrième, 13 ans entre la quatrième et la cinquième, 7 ans entre la cinquième et la sixième, 19 ans entre la sixième et la septième, et enfin 16 ans entre la septième et la huitième, qui est la dernière. Autrement dit, Jean-Yves...
C'est des siècles, ça?
Non, des années.
Oui,
voilà.
Mais presque un siècle.
Deux siècles, à 3 années près. Donc autrement dit, au cours d'une vie, des populations eurent à subir entre 2 et 4 croisades, avec les villes évidemment et les villages mis à sac, les infrastructures agricoles démolies et le tissu social bouleversé. Un peu comme si tous les 25 ans en moyenne, et ce pendant deux siècles, les villes et les campagnes de France avaient été régulièrement dévastées, les populations déplacées et tenues de se soumettre à un pouvoir politique et économique venu de l'extérieur. Imaginons ça. Paris, tous les 25 ans, assiégé, conquis, mis à sac, la population sacrément malmenée. Imaginons un petit peu. Et ça, ça nous expliquera dans les émissions suivantes comment les gens de cette région du Levant, de l'Orient, se sont finalement toujours sentis un petit peu en péril, toujours un petit peu assiégé en quelque sorte. Alors le 27 novembre 1095, lors du concile de Clermont, le pape Urbain II déclare « Beaucoup d'entre vous le savent, les Turcs, race persane, ont envahi les chrétiens d'Orient par la Méditerranée. Ils avancent sur les territoires chrétiens de la Romanie, donc c'est comme cela qu'on appelait l'Empire byzantin, tuent et capturent de nombreux chrétiens, détruisent les églises, ravagent le royaume de Dieu, laissez-les faire et ils bafoueront les fidèles de Dieu. » Alors pour mémoire, les Turcs ne sont pas des persans, mais un peuple mongol venu d'Asie centrale. Donc le pape Urbain II est excusable, c'est seulement 55 ans plus tôt, en 1040 que ce peuple nomade, donc récemment converti à l'islam, les Turcs et à l'islam sunnite, fondent un immense empire, l'empire Seljoukide, qui s'étend à l'est depuis la mer Caspienne, la mer d'Aral jusqu'à l'entrée du golfe Persique et de la mer Noire, l'Asie mineure, la Syrie, une partie de la Jordanie et des actuels états du Liban et d'Israël. Donc, c'est pas l'empire d'Alexandre, hein, mais c'est un empire qui va quand même jusqu'à l'industrie. C'est important. Mais accordons-nous maintenant une pause musicale avec Ikaz Mandra, les chants de harem par l'ensemble des femmes d'Istanbul. Vous savez, la chronologie musulmane débute 622 ans après la naissance du Christ. Et cette date correspond à un épisode fondamental de la vie de Mahomet, l'Hégire, c'est-à-dire la fuite du prophète chassé de la ville de la Mecque et qui part se réfugier à Médine. C'est l'Hégire, donc. Alors, entre le 7e et le 8e siècle, les Arabes bâtissent un immense empire qui s'étend de l'Indus jusqu'aux Pyrénées. Et l'apogée de l'empire se situe au début du 9e siècle sous le règne du calife Haroun al-Rachid. Lorsque débute la première croisade en 1096, l'islam existe depuis un peu moins de 5 siècles, 474 ans exactement. Au cours du 9e siècle donc, le monde musulman se divise profondément. Après la dynastie des Abbasides qui relève d'un islam sunnite, une nouvelle dynastie chiite, cette fois, s'installe au Caire, les Fatimides. Et puis nous venons de le voir, c'est l'entrée en scène en 1040 des Turcs Seljoukides, récemment convertis à l'islam sunnite, qui après s'être emparé de l'Afghanistan et de la Perse orientale, entre à Bagdad en 1055. Alors l'empire Seljoukide atteint son apogée vers 1070 quand le sultan Alp Arslan inflige une lourde défaite à Byzance lors de la bataille de Malazgerd, puis que son fils Malik Shah s'empare de la Syrie et d'une large partie de la Palestine. Et c'est en 1098, l'année au cours de laquelle les Fatimides ont repris Jérusalem aux Turcs, que les armées de la première croisade, après avoir traversé l'Asie mineure, prennent la ville d'Antioche, un des verrous de la route de Jérusalem. Voilà, donc la route de Jérusalem est ouverte. Alors le siège de la ville, donc de Jérusalem, dure près de 8 mois. D'Antioche, dure près de 8 mois. Malgré les expéditions de fourrageage menées à plus de 80 km à la longue, les assiégeants croisés manquent de tout. La plupart des bêtes de somme meurent et 4 chevaliers sur 5 n'ont plus de cheval, ils sont à pied. Conscient de cette vulnérabilité, l'un des chefs, Baudouin, établit le premier état croisé autour de la ville d'Édesse située à l'est de l'Arménie. Et c'est le 15 juillet 1099, que les croisés s'emparent de Jérusalem malgré l'intervention de contingents égyptiens venus en renfort des armées turques. Et c'est le massacre. Écoutons la description qu'en fait Raymond d'Aguilaire, donc un croisé. Toutes les rues, toutes les places étaient couvertes de monceaux de mains, de têtes, de pieds. On foulait des cadavres d'hommes et de chevaux. Ce sont là les moindres horreurs. Vous ne me croiriez pas si je disais tout ce que j'ai vu. Mais le bilan pour les croisés est sévère. En 2 années, ils ont perdu les 2/3 de leurs effectifs. Donc ça a été vraiment dur. Alors pour terminer, écoutons la profession de foi d'un autre croisé qui s'appelle Nivelle de Fréteval, qui a participé à la première croisade. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Moi, Nivelle, élevé dans une haute noblesse qui, chez beaucoup, suscite la bassesse, pour la rédemption de mon âme et compte une grande somme d'argent reçue à cet effet, renonce à jamais, en faveur de Saint-Pierre, à ma conduite d'oppresseur résultant de mauvaises habitudes. Alors, en faveur de Saint-Pierre, c'est le village qui fait partie de son fief. Hein. J'avais coutume d'user par trop la terre de Saint-Pierre, Imprimville, et les alentours en m'emparant des biens des habitants. Chaque fois que je prenais la férocité chevaleresque, ça en dit long, je descendais à ce village avec une troupe de mes chevaliers et serviteurs pour, forfait contre nature, nourrir mes chevaliers des biens de Saint-Pierre. Bon, c'est-à-dire, grosso modo, je rançonnais, je volais les gens. Pour obtenir le pardon de Dieu, que Dieu peut m'accorder, je pars en pèlerinage pour Jérusalem, jusqu'ici tenu en esclavage par ses fils avec les 6 derniers qui m'ont remis les moines, les 6 deniers, pardon, que m'ont remis les moines, pour les frais de voyage, en contrepartie de mon renoncement à l'oppression. Donc c'est en fait une, comment dirais-je, un pèlerinage pour un petit peu se faire pardonner les péchés c'est tous ces forfaits par le passé. Mais cette histoire, vous le savez, n'en est qu'à ses débuts. Ce sera pour les musulmans une suite de combats dos au mur contre les Francs, contre Byzance, mais également contre les Mongols, car l'enjeu pour eux se résume tout simplement à ne pas disparaître, à ne pas voir leur civilisation rayée de la face du monde. Et parmi ceux qui menèrent cette résistance, vous avez bien évidemment reconnu celui qui fut l'un des acteurs majeurs emblématiques de cette lutte à mort, Saladin. Ce sera le sujet de notre chronique de la semaine prochaine. Alors, à lire et à voir pour en savoir plus, donc Saint-Livre de Toulouse à Tripoli, itinéraire de culture croisée aux éditions Amam, Orient et Occident au temps des croisades de l'historien Claude Cahen, membre de l'Institut aux éditions Aubier, Atlas des croisades de Jonathan Ridley-Smith, qui est professeur à l'Université de Londres et qui est considéré comme l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des croisades aux éditions Autrement, Les croisades vues par les Arabes du journaliste et romancier Amin Malouf et Jean-Claude Lattès, toujours d'Amin Malouf, Samarcande, qui relate la vie d'Omar Khayyam, l'un des plus célèbres poètes et astronomes persans du 11e siècle, et c'est au livre de poche. Et enfin, un film disponible sur DVD, Kingdom of Heaven, donc le royaume du paradis de Ridley Scott, avec entre autres acteurs Orlando Bloom et Liam Neeson. Alors Jean-Yves, on a parlé la semaine dernière des aides naturelles que l'on utilise pour se faire comprendre de son cheval, et il y a aussi les aides artificielles. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur... D'abord, qu'est-ce que c'est les aides artificielles?
Les aides naturelles, c'est ce que bon Dieu a inventé pour communiquer, pour parler, pour être avec le cheval. Les aides, ça doit aider. Mais il y a aussi ce que le diable a inventé, c'est-à-dire toutes les aides artificielles. Et alors, elles sont nombreuses, hein, y compris le courant électrique, parce que quand un cheval ne veut pas sauter, on lui met le courant électrique sur la barre qu'il doit sauter pour qu'il monte encore un peu plus haut. On lui mettait, parce que ça, c'est que les mauvais qui faisaient ça, mais les bons ne le font pas. Alors, les aides artificielles, ben, il y a le gong, il y a les arrêtements, tous les arrêtements fixes, le martingale, les
raies allemandes, Colbert,
oui.
Les filets releveurs aussi.
Les filets releveurs, les filets abaisseurs, enfin tout ce qu'on peut inventer pour agir artificiellement. Moi, je suis contre. Voilà, rien ne peut remplacer la main, le tact de la main, et rien ne peut remplacer le bon vouloir du cheval. Parce que sur l'artificiel, le cheval cède. Il refuse, il cède obligatoire. Quoi.
Parce qu'il n'a pas le choix, il ne peut pas faire autrement.
Oui. Il ne donne pas, il se retient.
Alors que dans l'aide naturelle, c'est au fond les éléments d'un dialogue que le cavalier noue avec son cheval.
Voilà, c'est une relation entre le corps et entre l'esprit du cavalier et le cheval.
Donc c'est le cavalier qui fait une demande, voilà.
Il doit se plaire dans son air. Pour se plaire dans son air, il ne faut pas qu'il y ait d'artifice.
Il n'y faut pas qu'il y ait d'artifice, c'est-à-dire voilà, c'est un dialogue, une demande que fait le cavalier, que le cheval comprend, un cheval détendu bien évidemment, un cheval confiant et auquel le cheval répond.
Oui, puis la main doit être accueillante. Donc si elle est accueillante, elle sait recevoir et le cheval a confiance à cette main et va se poser, se confier à la main et recherche le contact de la main et ne la fuit pas. Alors que dans les artifices, même dans les artifices, le cheval essaye de fuir la douleur qui l'oppresse.
Il essaye de fuir la douleur qui l'oppresse. Oui, c'est ça. C'est tout à fait déséquilibré en réalité, comme rapport entre
oui,
l'homme
c'est
sa monture.
C'est du dressage.
C'est du dressage, oui, oui.
C'est pas de l'éducation.
Voilà. Alors, Élise, la monitrice dit toujours à Élise et à ses copines, à ses copains, gardez bien vos distances entre vous. Alors, problème, c'est que au pas, au trot assis, tout va très bien. Élise arrive à garder les distances, mais en revanche, au trot enlevé, Lutin se met à précipiter, se retrouve assez vite sur le derrière de suite du poney devant. Alors pourquoi d'abord Jean-Yves?
Ben, garder ses distances, c'est important, parce qu'il y a des chevaux qui s'aiment et d'autres qui ne s'aiment pas, c'est comme pour les gens. Et puis deux chevaux qui ne s'aiment pas font la bataille et font de la guerre entre eux, ils se mordent, ils se tapent. Donc il faut éviter les accidents. Alors voilà pourquoi il faut garder les distances. Mais pour garder les distances, eh ben, il faut être en équilibre, il faut être en place. Si on charge trop les épaules en serrant les jambes, on demande au cheval d'aller plus vite et d'aller en avant, alors donc c'est ce qu'il fait et qu'il obéit et il charge. Alors que si on s'assoit bien comme il faut, en rejetant ses épaules en arrière, en mettant le poids du corps sur l'arrière, on équilibre son cheval et ça le fait ralentir. Voilà, donc il ne faut pas se mettre trop en avant, se pencher en avant et serrer les jambes, parce que ça fait précipiter les chevaux.
Ça fait précipiter les chevaux. Alors le dicton de la semaine, très vite, amour, confiance et respect, sans ces trois conditions, il n'y a pas d'équitation possible. Alors c'est avec plaisir que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui.
Non pour s'en servir, mais pour le servir.
Formidable Jean-Yves, alors n'oubliez pas tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de votre fidélité.
À la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Droit et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey,
d'aigle morte à Rodez, en passant par sa miège, du Languedoc au Rouergue, après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, les Vézous, sa miège, le milieu du sel, patrie de Béranger, de Landore.
capitale du Rodez.